21h sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Ce soir, nous vous invitons à vous laisser aller à la rencontre. Il ne se passera rien d'extraordinaire ou de dangereux, rien de catastrophique ou de sublime, rien d'incroyable ou de sulfureux, simplement une rencontre. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Yvan Joseph, seul et unique écrivanaliste au monde, à mi-chemin entre l'artiste, l'écrivain et le psychanalyste. Il a tout d'un personnage fictionnel mais ancre pourtant sa réalité, si on peut dire ainsi, dans les rencontres qu'il provoque quotidiennement. Avec lui, nous dévierons dans une discussion non maîtrisée, aucune question n'est préparée à l'avance. L'émission trouvera son propre déploiement dans la rencontre. Sans filet, nous nous jetterons dans le vide d'une heure de pause radiophonique où notre seule contrainte sera celle de prendre le temps. Ce temps qui nous est offert et que nous utiliserons jusqu'à la dernière seconde, une heure pour découvrir ce drôle de métier que celui d'artiste, une heure pour réfléchir ensemble à ce qui fait œuvre et ce qui donne de la valeur à la création artistique, une heure pour dénouer nos fils et s'inventer des métiers, une heure pour le plaisir, une heure pour rien.
Et vous ?
Déshabillez-vous !
Bonsoir Yvan Joseph.
Bonsoir Mélanie.
Merci d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
Alors bien sûr, pas de questions préparées. Donc, alors peut-être qu'on pourrait commencer par celle-ci. Qui êtes-vous aujourd'hui, Yvan Joseph ?
Aujourd'hui, je suis Yvan Joseph. Et pour le coup, ça a son importance parce que c'est un pseudonyme que je commence à affirmer et qui est en fait le résultat de l'évolution du travail que j'ai pu faire au préalable qui m'a amené à utiliser mon vrai nom.
D'accord, alors ce travail que vous avez effectué au préalable, est-ce qu'on peut se tutoyer d'abord parce qu'on ne va pas faire semblant.
Mais si vous le voulez, pas de problème.
On se connaît un petit peu en fait, et Joseph, on s'est déjà rencontré.
Si tu veux bien, on pourra changer aussi, ça pourra varier.
D'accord, bah faisons ça, de temps en temps on se vous voit, après on se tutoie, on fait comme si on était nombreux dans ce studio. Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur ce parcours et ce qui t'amène à aujourd'hui être Yvan Joseph, alors que tu as été bien d'autres avant.
C'est peut-être parce que j'ai eu le sentiment à un moment d'être absolument rien du tout, d'être tout vide et de ne pas savoir du tout où était ma place. Alors là, je pense tout d'un coup qu'on est à Radio Campus. C'était en fait à la fin de mes études, qui était ce que j'aime bien dire, des études de pis-aller. Puisqu'en fait, je crois que très légitimement, mes parents m'ont un peu assigné un parcours tout tracé, qui était peut-être plus la projection de leur désir à travers moi, qui faisait que quelque chose que je pouvais me réapproprier. Et donc, à l'issue d'études de droit, pour ne pas les nommer, qui avaient quasiment plus de sous de sens pour moi, j'ai arrêté tout d'un coup, me retrouvant face à un grand vide. Mis à part le fait que j'aimais bien quand même la création artistique de façon générale et littéraire en particulier, et que dans ce grand vide, j'ai franchi la porte d'un psychanalyste qui m'a amené à travailler un petit peu tout ça, et aussi à ce que se révèle pour moi l'intérêt plus particulier pour cette discipline, ce champ d'activité. M'amenant finalement à tâcher d'inventer le métier de mes rêves, pour déjà découvrir que ça, on ne l'invente jamais. Donc peut-être réviser un peu à la baisse mes ambitions et tâcher d'inventer un métier à ma mesure, qui serait celui que j'inventerai à mesure que je le pratiquerai, de même que je le pratiquerai à mesure que je l'inventerai, et qui a pris comme nom générique l'écrivanalyse.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ça, l'écrivanalyse ?
Alors l'écrivanalyse, c'est déjà un travail sur les mots, par le fait de nommer cette activité elle-même, d'essayer de lui donner un nom, de la définir. C'est déjà une évolution, puisque au début, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait l'écrilepsy-canalyse, puisque ayant un petit peu quand même explosé cérébralement à l'issue de ces études qui n'étaient pas du tout en lien avec mon désir, je suis sur le tard devenu épileptique, ce qui a été la porte d'entrée vers la psychanalyse, et que je me suis dit que finalement, grâce à ce symptôme, grâce à le symptôme pouvait être le lien, l'épilepsie, voilà, j'avais pu rentrer dans cette démarche de construction, de reconstruction, où le métier de mes rêves serait à la croisée de l'écriture, sans pouvoir ni vouloir tout à fait assumer le statut d'écrivain, et aussi de la psychanalyse, sans pareil prétendre aller jusque-là. Mais du coup, voilà, entre les deux, liés par la maladie, l'épilepsie, il y aurait ce métier de mon invention qui serait l'écrit des psychanalyses. Et puis, il y a eu ce stade intermédiaire maintenant qui a été que, bon, bah, il s'agirait de faire l'économie à un moment de la maladie. Donc, on enlèverait épilepsie et ce qui était l'écrit des psychanalyses deviendrait l'écrivanalyse, ce qui était intéressant pour moi, puisque ce qui faisait le lien dans écrivanalyse, c'était Yvan, mon prénom. Et du coup, je retrouvais dans le nom que je donnais à ce métier de mon désir, je retrouvais mon propre prénom.
Alors, est-ce qu'on a le droit de dire, d'expliquer comment ça se passe, une écrivanalyse ?
Une écrivanalyse. Ben voilà, une écrivanalyse, c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert moi-même comment ça se passait, notamment parce que m'ont appris les gens que je rencontrais. J'avais voilà, cette idée de travailler le texte, mais dans ce cadre particulier, de point de départ de la présence de l'autre en face de moi. Sa présence physique. Et puis, mais essentiellement, parce que là, j'étais d'abord là-dessus avec la référence psychanalytique, avec ses mots, sa verbalisation, et que moi j'avais envie de me mettre dans la situation un peu du psychanalyste, à entendre ça, et moi de le prendre comme matériau pour retranscrire en mots ce qui serait un texte de son désir, à entendre là un texte de son désir, le mien, et aussi de la personne qui avait verbalisé quelque chose et qui voulait se l'entendre dire d'une certaine façon. Voilà. Avec l'idée de me baser un petit peu sur ce que je connaissais, c'est peut-être même d'envisager de voir quelqu'un avec une certaine régularité, dans une aventure au plus ou moins long cours, à durée indéterminée, un peu comme une psychanalyse, une certaine fréquence. Et puis aussi, puisqu'il s'agissait d'aller jusqu'au bout du pari, avec la prétention, l'envie de pouvoir peut-être même gagner ma vie comme ça. Donc au bout du compte, d'être rémunéré au fil de ce qu'on peut appeler des séances. Voilà. Et ça, je l'ai formulé dans ma tête d'abord. Après, j'ai osé le dire. J'ai osé le dire autour de moi, plutôt mon entourage. Et puis avec des gens qui m'ont emboîté le pas. Et puis, bon, il y a un moment où quand j'avais le grand plaisir de voir que voilà, des gens m'emboîtaient le pas, que ça se faisait, qu'on venait me voir dans mon lieu, et puis que j'écoutais les gens, que je leur envoyais du texte, je me suis dit, et qui allaient jusqu'à me payer pour ça, in fine, je me suis dit, bon, c'est bien gentil, mais c'est des gens qui me connaissent, donc est-ce qu'ils le font parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils m'aiment bien, ou parce que ça a vraiment du sens pour eux? Et c'est là qu'il y a eu une autre évolution importante, qui a été que j'ai commencé à aller attraper les gens dans la rue, inconnus, leur proposant de me suivre et en proposant de faire ce que j'avais élaboré et qu'ils ne me connaissent que par ce biais, que ce que je faisais et non pas qui j'étais pour eux.
Donc tu te balades, on peut le dire, sur la place de la République à Paris ?
Pas loin, voilà, mon bureau est pas loin. Bureau que j'aime bien appeler atelier, avec des traits d'union et un accent grave sur le A et ER à la fin comme atelier, mais voilà, quels sont les liens qui se font à ce moment-là. Voilà, depuis début 2010, je rayonne autour de mon bureau, je sollicite au hasard les gens dans la rue comme ça, des inconnus, en leur demandant de m'accorder une demi-heure. Voilà, il y a cette question aussi du temps, et une demi-heure, voilà, maintenant, tout de suite. Et je leur dis quelques petites choses pour révéler un petit peu, pour ne serait-ce que pour peut-être stimuler leur inconscient autour, voilà, de petites choses autour du texte, d'écouter, d'élaborer un texte qu'il est possible d'acheter. Et puis voilà, il y a des gens qui me suivent et puis on voit ce qui se passe et ce qui me permet d'ailleurs de découvrir de ce que je fais, que j'ai élaboré au fil du temps grâce à toutes ces rencontres.
Donc ces gens qui te suivent, ils savent pas très bien ce qu'ils vont faire avec toi, ce qui va se passer.
Et ils savent pas très bien, ou ils savent trop bien, ce qui fait d'ailleurs qu'il y en a beaucoup sans doute qui me disent non parce qu'ils s'imaginent trop bien ce qui pourrait se passer. Et bien évidemment, au-delà de la boutade, voilà, il y a des gens qui se demandent si ce qu'ils imaginent peut-être là en une seconde comme ça dans lycée maintenant, si ça mérite de me faire confiance ou pas. Et là, du coup, j'essaie de proposer en miroir. Voilà, quelque chose autour de la confiance qu'on peut avoir en soi-même, et du champ des possibles qu'on a envie d'explorer, qu'on s'autorise à explorer, notamment là en l'occurrence avec l'autre, inconnu.
Est-ce qu'il y a un profil type un peu des personnes qui acceptent de monter? Est-ce que c'est plutôt des artistes qui seraient un peu dans la même démarche, enfin, qui comprendraient en fait ce type de démarche, ou au contraire des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu artistique? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes? Est-ce que...
Alors, bon, là, c'est le plaisir d'une activité que j'ose revendiquer quand même plus que jamais du côté artistique, c'est que bah, le profil type, il doit un peu dépendre de mon inconscient. C'est-à-dire que j'y vais au hasard, mais je ne suis pas dupe de mon hasard. Qu'est-ce qui fait que je vais plutôt vers telle ou telle personne? Je sollicite peut-être moins un certain profil.
Par exemple, ceux en costard-cravate qui courent partout avec un téléphone à la main.
ben voilà, ça c'est typiquement, c'est le cas de le dire, un type que je ne sollicitais pas. Alors cela dit, justement, le profil type, j'espère qu'il soit n'existe pas, soit que c'est vraiment quelque chose qui, par définition, est mouvant dans l'expérience, qui est là pour voilà l'image habituelle de l'horizon qui change à mesure qu'on s'en approche. J'ai au fil du temps réfléchi aussi sur ça, sur le profil qui semble se dégager, bon, que je peux peut-être là un peu décrire. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plutôt des jeunes, ou alors plutôt d'un certain âge, peut-être majoritairement des femmes. Et puis il y avait aussi cette idée, c'est que voilà, je me disais, mais je vais peut-être plutôt vers des gens aussi qui me paraissent disponibles, qui me paraissent potentiellement avoir une demi-heure. Voilà. Et après, comme c'est quelque chose que j'ai essayé de changer, je suis aussi allé vers des gens qui, a priori, dans l'instant, parce que des fois j'ai envie d'aller vers des gens voilà, qui me paraissent plutôt le bon profil pour répondre dans l'instant. Et puis j'aime bien aller travailler un petit peu l'inconnu, aller vers quelqu'un qui me paraît occupé, quelqu'un qui est dans sa voiture au feu rouge, qui va pas avoir le temps, ou si, qui sait peut-être de me dire oui, et de garer sa voiture. Et puis, j'ai travaillé aussi sur cette idée de, tiens, s'il y avait plutôt des femmes, plutôt des vieux, des jeunes, bah, d'aller chercher des profils complètement différents. Alors, je vais juste rajouter, en essayant de pas trop long, le profil aussi est ce qui se révèle. C'est-à-dire, je suis amené de toute façon à découvrir quels sont plutôt les gens que je découvre qui arrivent. Alors, on va dire, je crois qu'il y a trois grand type de personnalité. Il y a des artistes, je pense qu'il y a voilà, ou des gens pour qui la démarche artistique, soit en tant que spectateur, objet ou sujet, voilà, il y a une résonance. Il y a des gens qui pour lesquels n'échappe pas la dimension psychanalytique et qui sont eux-mêmes dans voilà, une démarche d'introspection. Et puis il y a, et je pense que c'est pas par hasard, il y a souvent des gens qui sont à une croisée des chemins, un tournant de leur vie, notamment professionnelle. Je pense que le fait qu'aujourd'hui, la question d'être peut-être rémunéré pour ce que j'ai à leur proposer, si et seulement si ça a du sens pour eux, cette question du coût aussi, du sens qu'on trouve dans l'activité qu'on a, m'amène à avoir quand même un bon panel de gens qui ont fait des burn-out, qui veulent complètement se reconvertir, des choses comme ça.
Oui, il y a voilà. Cette question du sens du travail, voilà. De la valeur que tu peux donner.
Et du coup, de la valeur, voilà.
D'accord, voilà. Donc c'est intéressant. Si tu disais tout à l'heure, j'ai noté ça, tu parlais de oser le dire, tu disais qu'il y a un moment où il faut que tu oses dire, oui, ce que tu as envie, donc tu formules tes envies, notamment tes envies professionnelles. Ouais. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que c'est difficile d'oser dire, enfin de manière générale, pas uniquement pour toi, ouais, mais d'oser dire quelles sont justement nos envies, et juste, au contraire, est-ce que tu as l'impression que cette quête de sens et la manière dont les gens peuvent assumer plus facilement cette quête de sens fait qu'on ose plus facilement dire ce qu'on a envie, en tout cas formuler ce qu'on a envie?
Alors, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre un jeu de mots possible dans ce que tu as dit.
On aime bien les jeux de mots.
Bon, très bien. qui me paraît vraiment signifiant. Est-ce que c'est difficile? Tu parlais de la question d'oser le dire. Et je pense que paradoxalement, on ose dire beaucoup de choses, mais après d'aller jusqu'au bout, d'aller dans le faire qui va suivre ce dire, c'est un autre problème. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que oser le dire, c'est bien, mais autour de cette question d'oser, j'entends d'oser le dire, c'est-à-dire aussi bien la question de la mesure. Voilà, la question de la mesure, c'est-à-dire quel dosage, est-ce que voilà, on va tout balancer d'un coup, est-ce que voilà, oser, est-ce qu'on peut tout oser, est-ce que dès lors que ça se fait dans une interaction avec l'autre, quel est ce qui va correspondre à se respecter soi-même et oser dire quelque chose qui fait qu'on ne va pas se sacrifier, et dans le même temps, qu'est-ce qui, dans le oser dire ce qu'on a envie, ce qu'on a envie d'essayer, mérite d'être dosé pour ne pas écraser non plus l'autre. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours en travail, pour le coup. Et je pense, pour aller jusque-là, parce que J'ai fait un petit détour du côté de la chaire de psychologie du travail du CNAM, où ouais. ces questions-là autour de la reconnaissance au travail, du sens au travail. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est central dans cette activité, le dosage, la mesure. Et j'ai le sentiment que dans peut-être, allez, je vais le dire, une société où d'un côté on a l'impression qu'on peut tout dire, que tout est ouvert, mais que tout ça est très formaté, qu'il y a presque une assignation à pouvoir tout dire, tout se permettre, eh bien quelque part il y aurait finalement une grande limitation, une grande entrave dans ce tout possible. Voilà, qui mérite d'être travaillé, bien sûr en abîme, d'être travaillé autour, entre autres, de la question du travail.
Il y a cette question aussi parfois de la légitimité, oui. de est-ce que moi j'ai le droit de prétendre à être un artiste. Tu disais tout à l'heure que tu n'osais pas dire concrètement que tu étais écrivain, enfin en tout cas tu te définissais pas comme ça.
Non.
Alors justement, enfin, je vois que sur la table il y a un bouquin qui s'appelle La fabrique des imposteurs, et voilà. Il y a cette question-là d'avoir l'impression toujours d'être un imposteur, de ne pas être légitime dans ce qu'on fait. Est-ce que tu voudrais nous lire un petit extrait? Oui. Est-ce que tu l'as amené pour ça ou c'était pas du tout autour de ça?
Oui, alors déjà il y a une chose, c'est que La fabrique des imposteurs, c'est un livre qui m'a attiré à cause de ça. Parce que je suis dans cette tension permanente, et j'espère, parce que c'est pas tellement ça, pas seulement l'important, j'ai un petit peu d'importance, mais dans cette histoire de tous ces gens que je croise, je pense que c'est la question qui se pose beaucoup. La question de la légitimité et en regard de l'imposture. Est-ce que je peux me permettre de faire ça, d'oser faire ça, de tenter quelque chose, qui je suis pour? Du coup, j'aime bien cette idée. Le titre m'a frappé parce que je me suis toujours posé la question, mais est-ce que, là, quand je disais La fabrique des imposteurs, mais Roland Gori, là, il fait quoi? Il parle de moi? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je vais découvrir que j'en suis un imposteur? Ou est-ce qu'au contraire, on a raison? Est-ce qu'il faut passer par là, s'autoriser un minimum pour asseoir aussi une légitimité qui va arriver au terme d'une compétence? Je mélange les pinceaux parce qu'une association d'idées s'est faite. Je pense à Christophe Dejour, qui travaille peut-être encore, qui a travaillé longtemps au sein de la chaire de psychologie du travail. Il y a quelque chose, si j'ai bien retenu, en tout cas je l'ai retenu comme ça, qui m'a travaillé. On parle beaucoup de compétences aujourd'hui, et notamment au moment de l'embauche. Montrez-moi vos compétences. Et j'aime beaucoup cette idée que j'ai cru comprendre chez Dejour, que la compétence n'est pas ce qu'on peut afficher a priori, mais ce qui se révèle au cours et a posteriori. Et y compris avec le risque qu'on prend, c'est de pouvoir dire, je ne sais pas faire, mais je vais essayer. Et c'est là que ça va se révéler, la compétence. Je trouve en tout cas que ce texte de Roland Gori, que je n'ai pas forcément très bien compris, mais que j'ai beaucoup aimé lire, c'est peut-être le principal, voilà, travaille beaucoup ces questions aujourd'hui. Alors si, puisque ça, c'était un petit peu la règle du jeu, s'il s'agit d'en lire un passage, ce sera...
Avec plaisir.
Voilà, ce sera un petit peu long, mais je le trouve animé d'un souffle fort dans cette ambiance contemporaine.
À toi.
Que l'on comprenne bien, c'est bien sûr pas moi qui dis ça, mais Roland Gori, que l'on comprenne bien. Si nous ne nous résignons pas à voir inhibés, empêchés, dans leurs fonctions subjectives et sociales, le rêve et tout ce qui en dérive dans la culture, au nom d'une raison instrumentale blanche et sèche en saison néolibérale, ce n'est pas pour autant être conduit à jeter le bébé avec l'eau du bain en renonçant par exemple au progrès de la science et de la technique. C'est bien au contraire pour promouvoir la biodiversité culturelle, celle de la raison comme celle de la poésie, celle de la vérité comme celle de l'exactitude. C'est par un rêve que Dante Alighieri ouvre sa Divine Comédie. C'est à la suite d'un rêve que Constantin se convertit au christianisme et ouvre ainsi l'ère chrétienne de l'Occident. Qui pourrait sous-estimer, chez Léonard de Vinci ou Newton, la participation des rêves à leur découverte? Le rêve fait penser, la pensée invite à calculer, le calcul fait agir et l'action fait rêver. Il convient que la poésie soit inséparable du prévisible, mais non encore formulé. Ça, c'est une citation qu'il fait de René Char. C'est le monothéisme de la rationalité formelle et instrumentale que je mets en cause et l'hégémonie culturelle qu'il permet dans les sociétés capitalistes. Je revendique avec Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau l'intraitable beauté du monde, la créolisation des sociétés modernes et de leur culture, les métissages des traditions et des formes de rationalité, la magie du signifiant et l'efficace du signe, l'abandon créateur du rêve et la saisie arrêt du réalisme, le potentiel du chaos et l'ordre insurgé de la pensée vigile, la rigueur de la poésie et la beauté des mathématiques, l'impensable et le prédictible, le labeur et le jeu, le mélange des genres et la police du raisonnement, le lâcher prise et le choix calculé, la diversité consentie et la transmission assumée, les archipels de l'imaginaire pardon, et les océans de la technique, les éclairs des poèmes et les foudres du savoir, le jazz et la java. J'exige une pensée de la diversité qui refuse les morales d'état civil et les assignations à résidence des individus et des formes de vie, des formes du penser et de l'éprouver. Je revendique le tour de main de l'artisan et la haute technologie des tours de contrôle. Je revendique l'esprit du village grec ou corse et la liberté des villes, la haute solitude de l'Alta Rocca et le bruissement de Montparnasse. C'est presque fini. Je revendique la biodiversité, la créolisation de l'existence sans laquelle la liberté est un leurre. Je revendique la liberté de désirer en vain celle qui trouve dans le réel les limites de l'impossible, sans concession au conformisme et autres chloroformes de la nouvelle civilisation des mœurs.
Eh bien, merci beaucoup. C'était donc Roland Goris avec La Fabrique des Imposteurs, qui est publié chez Actes Sud en collection Babel.
Et dans cette collection, dont j'adore le titre, ça doit être Les Liens qui Libèrent. Voilà, c'est ça.
Les liens qui libèrent. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler un peu du choix de cet extrait-là en particulier ou...
C'est intuitif. En le relisant, je le redécouvrais et je me disais que voilà, j'avais vraiment le sentiment qu'il disait bien mieux que ce que j'essayais de dire tout à l'heure, ce que je voulais dire. Cette question du dosage, voilà, j'aime beaucoup cette idée. Alors, ce que j'ai envie de raconter, si tu veux bien,
raconte.
C'est le cheminement qui m'a amené à lire cet extrait. Tu m'as demandé, en préparant l'émission, de choisir un extrait qui avait pu m'influencer. Il y en avait trois. J'avais envie de lire la préface de Céline par lui-même de Guignol's Band, que je trouve magnifique. Donc voilà, ça fait une référence, après les gens pourront aller chercher. Mm-hmm. Il y a un texte beaucoup plus court que j'adore, c'est l'avant-propos de l'éloge de la fuite de Laborie. Et puis bien sûr, j'avais envie éventuellement de citer un passage de l'œuvre d'art à l'ère de la reproductivité technique de Walter Benjamin. Et puis j'ai retrouvé ce texte de Laborie avec deux passages que j'avais entourés. Et il y en avait un qui bien sûr évoquait Walter Benjamin, la question de l'aura, de la non-reproductivité. Voilà, dans cette ambiance du tout reproductible de nos sociétés actuelles. Et puis j'ai vu cet autre passage que j'avais entouré, qui pour moi, d'une façon plus évasive, posait bien cette question dont on parlait tout à l'heure du dosage dosé. Voilà, cette possibilité, voilà, j'aime beaucoup la suite, ce qui fait rêver, ce qui fait penser, etc. etc. Et avec le retour quand même, j'aime beaucoup la possibilité de la délimitation. J'adore cette expression. Délimiter, se donner la possibilité de découvrir une limite, le moment où ça s'arrête. Mais aussi faire ce chemin qui fait qu'à ne pas le faire, on n'aurait pas découvert ce champ des possibles qu'on avait. Et donc on délimite, on recule au moins la limite. Et je trouve que ce texte, dans son équilibre, tient quelque chose de sain.
Très bien. Je crois que tu as choisi aussi quelques morceaux de musique. Ouais. Peut-être qu'on pourra en écouter un. Ça
fera
une petite pause pour nous tous.
Oui,
aussi.
Voilà, voilà.
Alors, lequel tu voudrais écouter ?
Alors, très clairement, je vais faire appel à Gainsbourg, là, parce qu'il y a un morceau que j'adore de lui. Et tu me disais tout à l'heure, les gens qui te suivent dans la rue, à quoi s'attendre et tout, avec c'est le jeu dans l'histoire, les projections, qu'est-ce qu'on peut imaginer, surtout si un homme sollicite notamment une femme. Voilà, et puis là, en clin d'œil, j'aimais beaucoup ce qui se passe en revanche quand on suit... Gainsbourg et sa magnifique prose dans son hôtel particulier.
C'est parti.
Au 56, 7, 8, peu importe, de la rue. Des escaliers, des couloirs sans fin se suivent. d'Aphrodite et de Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici de Cléopâtre, dont les colonnes du lit de style rococo sont des nègres portant des flambeaux entre ses esclaves nus taillés dans l'ébène qui seront les témoins muets de cette scène, tandis que là-haut nous réfléchis lentement, j'enlace mélodie.
Serge Gainsbourg avec L'Hôtel Particulier, vous êtes toujours dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Et je suis toujours en compagnie de Yvan Joseph, écrivanaliste de profession. On a expliqué un peu tout à l'heure ce que c'était que ça, là, l'écrivanalyse. Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce choix ? Ah oui, tu nous as déjà parlé du choix de Serge Gainsbourg.
Ouais.
Ouais.
Et si tu veux bien, je vais du coup t'emboîter le pas sur cette idée de définition de ce que je ferais autour de l'écrivanalyse. Alors, ça va être « et », oui, je fais ça, mais autre chose. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'expression qui me va le plus, c'est « plasticien littéraire ».
D'accord, c'est comme ça que tu te présenterais si on te demandait voilà. Bonjour, qui es-tu dans une soirée.
Voilà, ouais. Plasticien littéraire qui pourrait se décrire, un plasticien littéraire ça peut être amené à faire plusieurs types d'expériences. Alors il y aurait l'écrivanalyse, il y aurait aussi de l'écriture et puis je mets aussi artiste comptable. Ça, j'aime.
C'est vrai que comptable, c'est ton autre profession.
Alors, comptable, pour la boutade, c'est ce que je suis amené vaguement à faire en activité alimentaire pour essayer de soutenir ce désir d'essayer d'inventer un métier de mes rêves où je pourrais gagner ma vie éthiquement tout en gagnant ma vie alimentaire, ce qui petit à petit ce dont... De quoi je me rapproche petit à petit. Mais en plus, comme on ne l'a pas évoqué, mais dans plus formellement le type de texte que je fais, il y a un travail autour de l'obsessionnalité, notamment de l'obsessionnalité autour du chiffre 5, à faire du coup des textes compacts, comme des petits cubes composés de 5 lignes, de 5 mots chacune, et un texte de 5 ponctuations. Voilà, il y a cette idée aussi qu'il s'agit donc de compter. jouer avec les jeux de mots possibles autour de compter mes mots, de voir ce qui compte pour les gens qui vont venir, qui vont déposer des mots, les mots qui comptent pour eux. Il s'agit de voir moi ce qui va compter pour moi, d'essayer de compter pour eux aussi. Et puis de raconter, bien sûr, de conter quelque chose, une histoire autour de ça. Donc, comme en plus, et là encore, via Gori, ça m'évoque, je crois, une citation de Can Guilhem. Cette opposition entre le comptable et l'artiste, qui serait antinomique. J'aime beaucoup le grouper par un trait d'union, comme il y aurait l'analyste programmeur, il y aurait l'expert comptable, mais là, non, c'est l'artiste comptable.
Et c'est l'inverse, c'est l'inverse des générations slasher, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu es tout en même temps. Est-ce que tu connais cette idée du slasher?
Ah non, au contraire. Bah, et puis là, j'adore parce que tu vas m'apprendre quelque
alors,
chose.
En fait, tu sais, c'est tous ces gens qui font partie de ces jeunes générations, mais je pense que tu en fais partie aussi, hein, du coup, puisque tu fais partie de ces. Tu as l'air de faire plein de choses. C'est tous ces gens qui font plein de choses, en fait, qui sont, par exemple, chargés de com, slash DJ, slash artiste plasticien, slash babysitter, slash je sais pas quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est l'idée d'avoir différentes casquettes. Ouais. Donc, en fait, là, l'idée, c'est pas d'additionner tout ça, mais pour toi, ça serait plutôt de les réunir,
Ces deux métiers. Le trait d'union, là, et puis avec l'idée d'une synthèse possible, avec l'émergence de quelque chose. Tu vois, par exemple, pour l'écrivanalyse, il y a quand même le péril d'auto-engendrement qui est là. C'est, je vais faire mon métier, le seul métier, tu as dit tout à l'heure, c'est le seul écrivanalyste au monde. Oui, bien sûr, mais dans le même temps, c'est complètement mégalomaniaque, c'est complètement, ça peut être très vite délétère, on fait tous la même chose, on respire le même air. Et donc, cette idée de voir comment, et là, je pense du coup à Yves Clos, toujours en clinique de l'activité, ces questions de genre, de métier auxquels on peut appartenir et qui ont des règles, les règles du métier, et qui font qu'à un moment, artiste, plombier, potier, oui, mais bon, il y a un style qui va se dégager, qui va permettre la singularité, mais on appartient à un genre, et dont il n'est pas possible, sans péril du bris, de démesure, de prétendre être le seul tenant. Donc j'ai beaucoup cette idée que à un moment, dans une étape périlleuse de l'écrivanalyse et peut-être d'une prétention à l'auto-engendrement, aujourd'hui, par plasticien littéraire, il y a quelque chose qui est un peu plus factuel. Voilà, c'est plastique, ça prend différentes formes, ça se manifeste de différentes façons. Il y a les textes, il y a quelque chose qui relèverait de ce qu'on appelle la performance, à rayonner comme ça autour du bureau, aller chercher des gens. Il y a, aujourd'hui, ce soir, c'est une manifestation. Il y a quelques ouvertures du côté de la communication, de présenter son travail, comme ça peut se faire au travers de galeries, de spectacles, de choses comme ça. Et puis, c'est quand même plutôt, dans le cadre de la création, plutôt orienté autour de la littérature. C'est un clin d'œil aussi, parce que c'est un peu prétentieux, c'est un peu fourre-tout, plasticien littéraire, qu'est-ce que ça veut ? On peut être plasticien d'un peu tout, mais en fait, c'est vrai. C'est travailler les mots, travailler son activité avec les mots. Puis avec le petit clin d'œil humoristique, de réunir un peu les inconciliables, l'artiste et le comptable.
Est-ce que tu penses un jour faire complètement autre chose ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas continuer à décliner ce que toi tu pratiques dans l'écrivanalyse, ou est-ce qu'un jour tu te dis, ok, j'aurais fait le tour, je vais terminer et j'ai envie de faire complètement autre chose, un autre projet que tu montrais ?
Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, ça évolue tout le temps. Il y a des étapes, en fait, je continue ce que j'ai commencé à essayer de faire depuis que j'ai arrêté mes études, c'est-à-dire trouver ce que je pourrais faire. Et la chose peut-être importante à dire, c'est que je n'ai pas renoncé aujourd'hui à essayer de gagner ma vie alimentairement en faisant ça, ce qui consiste pour moi à gagner ma vie éthiquement. Je fais ce qui a du sens pour moi et j'essaie toujours de dégager du temps pour faire ça, y compris si pour faire ça, il y a un moment où je dois avoir une activité de comptable et puis de gagner un peu ma croûte comme ça. Mais la visée quand même aujourd'hui, l'horizon, c'est quand même d'essayer qu'il y ait substitution à un moment et que cette activité-là, qui, j'en ai la chance, me procure petit à petit un petit peu de revenus, puisse me procurer l'alimentaire qui fasse que je puisse faire l'économie de l'activité simplement alimentaire sans forcément beaucoup de sens pour moi, et d'obtenir l'alimentaire aussi par l'activité de cœur, de sens. Donc j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça depuis la fin de mes études, toujours essayé de faire correspondre ces choses-là. Et j'ai l'impression que si je gagnais un jour ma vie alimentairement en ayant cette activité, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Je continuerais en gros à la faire évoluer, continuerais à prendre d'autres formes.
Comment toi, tu arrives à trouver cet équilibre entre l'alimentaire et ce boulot, enfin ce travail-là qui n'est pas encore complètement suffisant pour te nourrir au quotidien. Où est-ce qu'il se joue cet équilibre? Est-ce qu'il est fragile? Des fois, ça t'angoisse d'être sur ce fil-là tout le temps?
Oui, ça m'angoisse. L'angoisse, ça peut être aussi si c'est vraiment de la peur et qu'on n'est pas bloqué par l'angoisse, ça peut être moteur aussi. D'autant plus que quand après, au fil des années, on partage sa vie avec quelqu'un et donc on n'est pas seulement responsable que de soi-même, enfin les choix peuvent impacter, qu'en plus on a une responsabilité parentale, oui, ça peut être angoissant, et puis on a d'autant moins envie de faire n'importe quoi. Alors ce qui est amusant, c'est que ça peut être aussi d'autant plus moteur, ça peut à un moment permettre de mettre de côté certains atermoiements, voilà.
T'obliger à faire les choses en tout cas.
Oui, à faire les choses, à faire toujours plus les choses, oui.
Tu te parlais tout à l'heure de cette distinction entre le dire et le faire. Mmh. Et alors comment, à quel moment, alors peut-être c'est un peu un conseil que tu pourrais peut-être donner aux gens qui justement n'osent pas faire.
Ouais.
À quel moment en fait toi tu t'es dit bon maintenant ça suffit de dire, ça suffit de penser, il faut que j'y aille, j'agis, je fais.
Ouais.
Et quel était le moteur de ce moment-là en fait?
Alors vraiment le moteur, je pense que j'aime bien la chose inconsciente. Ce qui doit se faire, doit se faire. À un moment, ma tête a explosé, je suis devenu épileptique. L'épilepsie, c'est... mon corps, de toute façon, a fait. S'il y a quelque chose qui relève du désir, je pense que ça se manifeste. Alors après, c'est sûr qu'il s'agit peut-être de l'alimenter plutôt du côté salutaire que délétère, d'aller plutôt du côté du cercle vertueux que vicieux, sachant qu'on ne maîtrise pas. On peut toujours y avoir vraiment le grain de sable. Et puis de toute façon, on est fini. À un moment, ça s'arrêtera. Mais le temps que ça dure, essayez de le cultiver du côté vertueux. Donc avoir cette idée. Et puis à un moment, dire oui, mais il faut qu'elle sorte de ma tête. Il faut que je le dise. Il faut que je sois prêt à ce qu'en face, on me dise mais t'es un fou furieux. Ça veut rien dire ce que ça dit. Et du coup, découvrir que tout simplement, un truc tout bête, tenter, c'est prendre un risque. Et c'est aussi tenter sa chance. C'est se donner la possibilité que quelqu'un en face dise je comprends pas très bien ce que tu me dis, mais j'en comprends un peu, et découvrir que l'autre, en plus, qu'il en comprend, parfois va au-delà de ce qu'on avait conçu. Et c'est comme ça que ça prend corps, dans la reconnaissance aussi de l'autre. Et pour qu'il y ait une reconnaissance, il faut qu'il y ait connaissance, il faut oser le dire.
Alors je vais faire un lien, je ne sais pas s'il est peut-être un peu aventureux, peut-être un peu dangereux, mais avec Urgence, un choix que tu as fait, donc Urgence de pardon, qui traite justement des urgences psychiatriques, à l'Hôtel Dieu à Paris.
C'est ça.
Et donc du coup qui a été réalisé en 1987. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot avant qu'on écoute l'extrait ou tu préfères après?
En deux mots, ce que j'adore, c'est de pardon, son travail est vraiment intéressant de saisir comme ça. Ce que j'aime bien dans Urgence, avec ces gens qui arrivent à un moment où ça explosé, où de toute façon il y a le désir d'une façon se manifeste, c'est voir comment à les entendre il y a quelque chose qui se dit au-delà du corps qui va plus loin, quoi, qui se fait malgré eux, ou peut-être en anticipant. Il y a un moment où des gens vont avoir pété les plombs et ça dit déjà quelque chose qu'il s'agit de dire simplement un peu plus. Et là, il y a cette possibilité, lors de cette urgence, d'avoir des gens qui écoutent et qui leur donnent la possibilité de le dire et de se l'entendre dire. Voilà.
On l'écoute ?
Oui.
Comment on peut dire ? Vous qui connaissez bien.
C'est pas moi qui ai pris caution.
Vous connaissez bien la... Vous connaissez bien la qui connaissez même bien la radio. Hein? Vous la connaissez même bien la radio. Hein? La radio.
Alors?
Vous la connaissez même bien la radio.
Alors?
Eh bien, je veux dire, vous la connaissez même bien.
Alors vous ne voulez pas nous dire un numéro de téléphone, on peut contacter. Hein? Alors maintenant vous allez avec le fermier qui va vous faire une analyse des souris. Allez.
Allez, pardon, monsieur. Mesdames. Et un sourire ou pas un sourire?
Un sourire.
Allez, au revoir, monsieur. Où c'est qu'il est mon.
Roland? Bon.
Alors c'est un court extrait, très court extrait d'Urgence de Depardon qui a été tourné en 1987. C'est un protocole qu'il a l'habitude de mener, c'est-à-dire qu'il pose une caméra en fait tout simplement. Il demande évidemment aux gens s'ils acceptent d'être filmés et puis ensuite d'être dans un film qui sera diffusé en, par ailleurs et par la suite. Pourquoi cet extrait-là en particulier? C'était la petite référence à la radio qui faisait rire.
Voilà, bon, ça c'était amusant. Alors là on n'a entendu qu'un tout petit bout, c'est la fin de l'extrait, c'est un des entretiens du film. Bon. Il me fait mourir de rire. Là, j'invite les gens vraiment à ce qu'ils ne connaissent pas ce film.
Ce monsieur se tapote aussi, essaie de se réveiller en se disant
de
demander.
Et puis il y a des renversements. C'est-à-dire qu'il y a une psychiatre qui l'accueille et qui est dans la posture un peu de moi, alors que qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et le type qui, lui, c'est quelqu'un qui a passé, je pense, une nuit un petit peu alcoolisé, qui est un peu fatigué et qui, pareil, lui dit mais lui-même prend le rôle et puis tout d'un coup fait mais alors qu'est-ce que vous voulez me dire là, qu'est-ce que vous faites là? J'aime bien, j'aime beaucoup, voilà, cette. Ce moment ténu là où avec l'autre, quel est cet inconnu qu'on a en face, qui on reconnaît de nous-mêmes dans l'autre qui peut être dans une décompensation, un moment vraiment qui paraît si éloigné de la raison. Et voilà, ce que c'est amusant, tu parlais de ce dispositif de Depardon qui place la caméra. Et là, je me permets de faire un petit lien avec les séances de pause, puisque je les appelle comme ça, où j'invite les gens à venir avec moi. C'est cette idée, voilà, que c'était comme une entrouverture. Les films de Depardon, c'est cette posture qu'il a qui fait que des choses peuvent se dire. Et du coup, on peut découvrir des choses se dire dans ce cadre-là, avec, je crois, la limite, du coup, que permet le visuel, c'est qu'on voit et que, quelque part, c'est amusant parce que le monsieur là qui termine, qui était dans son trip, dans son délire, à la fin, il se tourne vers la caméra, il fait « Bonjour, monsieur, dame », il fait un sourire. Donc, il ne lui a pas échappé que la caméra le regardait. Et voilà, ce serait comme une déclinaison de cette expérience avec ce qu'il y a en moins et ce qu'il y a en plus. Quand les gens viennent dans mon bureau, là, il y a un moment où, et pour peu qu'ils me fassent confiance quand je leur dis que ça reste entre nous, ce qu'ils livrent n'en sortira que quelque chose de crypté, que eux seuls pourront, pour lesquels eux seuls pourront avoir tout à fait la traduction, le décryptage.
Ça en résulte une quinte, ce que tu appelles une quinte, donc cinq lignes.
Voilà, de cinq mots, avec cinq ponctuations, qui sont les mots, le poème, l'haïku, je ne sais pas comment on pourrait le dire, qui m'a été inspiré. Et entendu que quand les gens viennent prendre connaissance de leur texte, donc de l'élaboration intellectuelle, la quinte, j'interprète la quinte. C'est-à-dire que j'interprète pas leurs mots, j'interprète l'interprétation que j'ai pu en faire. Voilà. Et
quand tu dis interpréter, ça veut dire que tu leur expliques ce que la manière dont tu l'as pensé.
À la fois, je l'interprète dans le sens traduction, explication, et puis aussi avec l'idée, comme un peu ce qu'on est en train de vivre, du moment de l'ici et maintenant, du direct, où il y a une interprétation comme d'une pièce de théâtre par un comédien qui fait que ça a beau être maîtrisé, on a beau connaître son texte, tout d'un coup, quelque chose, l'accident peut arriver. L'interprétation comme d'un morceau en direct.
Est-ce que justement parfois certaines personnes t'auraient reproché d'avoir trop interprété ce qu'ils avaient dit, de ne pas avoir compris ce qu'ils voulaient dire, ou est-ce qu'au contraire ça fonctionne toujours, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a une part de toi finalement dans cette quinte?
Je pense, parce que encore une fois c'est ça, ce que j'interprète c'est la quinte, c'est le texte. Donc autrement dit c'est je donne finalement un accès à ma subjectivité. Ma subjectivité étant là pour exprimer ce qu'ils m'ont inspiré. Après, voilà, ils peuvent trouver ça complètement déformant, complètement erroné. Il ne s'agissait pas de leur dire une vérité. Il s'agissait simplement de leur faire part de ce qu'ils m'ont inspiré. Et après, en l'explicitant un peu plus. Donc, non, j'ai pas, je me reconnais pas spécialement là-dedans, mais en tout cas, ça n'est qu'une représentation que je fais de. Là, on est du côté artistique.
Voilà. Et donc, c'est à ta manière. On peut faire une super transition avec My Way. un autre morceau que tu as choisi. Voilà. J'ai tenté les transitions aujourd'hui, c'est magnifique. Donc, My Way, tu as choisi un morceau donc, de Hugo, enfin, la version de Hugo Montenegro de ce morceau-là très connu, My Way. Est-ce que tu veux en dire quelque chose?
On le dit depuis tout à l'heure. My Way, bon, c'est mon chemin. Il y a une croisée des chemins où je suis amené à voir le chemin de certaines personnes. C'est aussi une chanson hyper connu, qui a été interprété, réinterprété, qui est donc dans ce... Là, on est autour de Walter Benjamin, de la question du non-reproductible et de l'aura, et y compris de la possibilité de mettre son style dans un genre. Là, ça va être le genre My Way que tout le monde peut se réapproprier. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est une chanson que tout le monde connaît. Et là, il y a cette interprétation que j'ai découverte il n'y a pas tellement longtemps, voilà, que je trouve tout à fait singulière, que j'adore. Et voilà, je trouve qu'elle résume bien.
Qu'on sera ravis de faire découvrir à nos auditeurs. Je l'ai aussi découvert tout à l'heure. Super. Grâce à toi. On est ravis de l'entendre.
And now the end is near, so I face that final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it all. Went through it all, when there was doubt, I ate it up, and I spit it out, I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Then I've loved, I laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. As my tears subside, I find it all so very amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. Tell me, what is it?
My Way, d'Hugo Monténégro. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Et je suis toujours en compagnie d'Yvan Joseph, écrivain-analyste. Alors, on était en train de parler tout à l'heure de la quinte. Et moi, je me disais, pendant le morceau, là, ce qui serait intéressant et ce qui pourrait être chouette, c'est que tu nous lises une ou deux quintes un peu au hasard. Ça te dit ?
Super.
Et puis après, on va parler de la manière dont tu les proposes aussi sur un support physique. Mais ça viendra après. On va d'abord les écouter.
Alors, au hasard, et j'ai pas pu m'empêcher de faire bouger le hasard, j'ai ouvert le recueil, mais j'ai pris la deuxième main. À la limite du nu. Le sous-titre étant pour une logique de l'acte. Et la quinte elle-même est la suivante. Les conduites à risque, venues se chercher à l'exhibition d'un regard, s'épanchant, abandonne son abondante maîtrise, mise à mal en une séance de peau.
Très bien. Alors effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'il est très difficile de décrypter. Enfin, c'est un message codé et crypté que seule la personne, enfin toi et la personne qui était face à toi peut entendre. Ouais. Alors pour nous, c'est quelque chose, juste c'est un texte qui peut être beau, qui est agréable à lire, qui est poétique, qui est quelque chose un peu du surréalisme. Oui. Est-ce qu'on peut te dire ça ? Est-ce qu'il y a une référence au surréalisme qui est flagrante aussi ?
Pas explicite, pas recherché. Ça m'était envoyé, ça me va. Je pense que de toute façon, on est peut-être influencé par ce qui nous a alimenté sans forcément s'en rendre compte. Je pense que le mouvement surréaliste a fait basculer a délimité, a procédé à de la délimitation dont on ne peut plus faire l'économie maintenant sans s'en rendre compte.
Puis il y a aussi quelque chose un peu du cadavre exquis qu'on faisait quand on était jeune et qu'on fait beaucoup d'artistes aussi. Ouais. C'est pas que un exercice qu'on fait quand on est jeune, mais comme on comprend pas forcément le sens du texte en général, globalement en tout cas, mais qu'on peut le lire phrase après phrase, on pourrait se dire que c'est une construction comme ça, un peu hasardeuse, de plusieurs personnes qui auraient contribué à écrire ce texte. Ouais.
Alors pour le coup, c'est fait avec du matériau, le matériau de mots qui a été déposé, ce que j'ai vu aussi de la personne qui vient, de sa posture. Mais aussi bien, oui. Moi, l'idée que j'aime bien, c'est on est dans du. Là, je reviens à Walter Benjamin, la reproductibilité, vraiment par excellence avec la photographie. Voilà, l'image vraiment super fidèle. Et en même temps, ce fait qu'on comme si on ne voyait plus rien, comme si à pouvoir tout voir dans un instantané, on ne verrait plus rien, ou du coup que ça mettrait en relief ce qui reste invisible. Et j'aime bien cette idée que là, dans ce que j'appelle des clichés textuels, par les mots, il y aurait, mais à l'épreuve du temps, il faut du temps pour peut-être y accéder, il y aurait la possibilité de donner à voir ce qui reste encore invisible. J'aime bien l'idée que avec les quintes, ces clichés textuels, je propose peut-être une exposition, voire une exhibition, et pour le coup consentie par qui a été modèle quelque part, une exhibition de l'intime. Autrement dit, quelque chose d'impossible, qui relève de l'oxymore, et en même temps qui serait peut-être tenu là. C'est-à-dire la façon d'exhiber ce qui par définition ne s'exhibe pas, puisque c'est de l'intime. Avec cette possibilité pour qui a posé, qui a été poseur, poseuse, de voir représenter de l'intime qui a été livré, et en même temps de se sentir protégé, de savoir que oui, il est là, de pouvoir le reconnaître. Ça, c'est dans l'interprétation que moi j'explicite, par quel chemin je suis passé pour représenter comme ça ce qui m'a été dit, montré réellement. Et que peut-être le poseur, la poseuse peut avoir le sentiment que ça a été déposé, que c'est même montré et qu'en même temps c'est protégé.
Alors est-ce qu'on peut parler justement du support sur lequel tu écris ce texte, qui est important pour toi, ce support, qui n'est pas anodin
Et qui n'est pas anodin tout en justement l'étant a priori, une petite carte de visite, un petit morceau de rien du tout, voilà, apparemment anodin, mais qui suffit, me semble-t-il, suffit à quelques-uns dont j'ai pu croiser le chemin, pour être le support de cette élaboration intellectuelle, mais du coup ce support matériel, qui du coup soutient la réflexion de Walter Benjamin dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, autour de l'aura de l'œuvre d'art, de sa non-reproductibilité, et qui fait que quand la quinte est ce texte qui peut être reproduit à l'infini, internet, copier-coller, imprimé, la quintesse, qui est un exemplaire donc unique que je remets à la que je propose à l'achat de la personne qui est venue poser, qui est donc cet exemplaire unique de la quinte, avec au verso cinq autres lignes de cinq mots, le titre et le sous-titre, comme ceux que j'ai vus tout à l'heure, et puis d'autres éléments d'authenticité, d'authentification, comme le prénom, le nom de la personne qui est venue, ma signature, des choses comme ça, la date. Voilà, et qui, pour le coup, lui, est non reproductible, et qui, s'il est détruit, s'il est perdu, ne sera pas refait.
Parce que c'est-à-dire que tu proposes, on ne l'a pas dit, mais aux personnes de détruire cette...
Alors, plus précisément, parce que ça, c'est à l'opposé, le destin funeste et qui n'a pas ma préférence de l'expérience, mais pour soutenir l'ici et maintenant, qui ferait que ça se passe ici et maintenant, et pas avant et pas plus tard, in fine, je propose, si et seulement si ça a du sens pour eux, aux poseurs et aux poseuses, d'acheter l'exemplaire manuscrit unique, la quintesse. Étant entendu, puisque ce support apporte des éléments d'authenticité, y compris le prénom et le nom de la personne, que je ne fais pas moi sans eux, et qu'aussi bien je ne vais pas diffuser non plus sans eux. Si ces gens n'ont pas envie de l'acheter, ils ont la possibilité de m'autoriser à le proposer à la vente. Là, on est aussi dans la dimension... dans l'essai d'en vivre, d'essayer de gagner sa vie en gagnant sa vie. Mais si ils n'ont pas envie que cet intime soit exposé, exhibé, protégé de cette façon-là, pour une raison ou pour une autre, bien sûr, il est détruit. Ça ne se fait pas sans eux dans tous les sens du terme. Et voilà, c'est un des destins de la Quintesse. Toujours aussi pour soutenir cet ici et maintenant de la réflexion de Walter Benjamin.
Alors, il ne nous reste que 5 minutes d'émission et on a un extrait auquel tu tenais particulièrement et que tu avais envie de nous faire écouter, qui est un extrait d'une émission d'Alain Finkielkraut qui s'appelle Réplique, que tout le monde connaît certainement, et qui a un sous-titre cette fois-ci qui s'appelle La carte et le territoire, pas pour rien, puisque l'invité c'est Michel Houellebecq. C'est une émission qui date de 2010 et c'est un extrait qui traite de la question de l'usage de l'italique dans les textes de Houellebecq. Bon, c'est bien plus profond qu'un simple usage de l'italique. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi ce choix ?
Là, l'italique est anecdotique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec cet extrait, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Il y a Finkielkraut et sa dimension très controversée aujourd'hui, mais qui est pour le coup quelqu'un qui, je pense, a un véritable amour de la littérature, qui moi m'a appris énormément, notamment en l'écoutant à Réplique et non pas dans les émissions où il peut intervenir et faire un scandale. Et puis là, en plus, alors là, le duo de choc à la sortie de La carte et le territoire, qui par ailleurs aussi porte une réflexion autour de l'art contemporain, etc., permet à Houellebecq de parler. Là, c'est deux voix que j'adore. J'ai juste le plaisir de les écouter. D'ailleurs, il n'y a pas plus à en dire. Il s'agit juste de les écouter.
Écoutons.
Ils vécurent plusieurs semaines de bonheur. Ce ne pouvait plus être le bonheur exacerbé et fébrile des jeunes en italique. Il n'était plus question pour eux, au cours d'un week-end, de s'exploser la tête ni de se déchirer grave en italique. C'était déjà, mais ils étaient encore en âge de s'en amuser, la préparation à ce bonheur épicurien, paisible, raffiné, sans snobisme, que la société occidentale propose aux représentants de ces classes moyennes élevées en milieu de vie. Et j'insiste très brièvement aussi sur l'usage des italiques, qui est très intéressant chez vous, parce que vous nous amenez à regarder la langue, et à regarder la langue que nous parlons, en montrant finalement, par les italiques, de quoi peut-être elle est le symptôme. Alors, si vous avez d'autres exemples, dites-les-moi, j'ai choisi, en effet, des exemples mineurs.
Parfois, j'aime bien signaler des détails... nous allons répondre. Hein. Mais par exemple là, sans doute le « mais ils étaient encore en âge » de son amusé, entre parenthèses, est un des hommages les plus directs que j'ai fait de ma vie à Georges Perec. Mm-hmm. C'est vraiment les choses, ça. « Mais ils étaient encore en âge de son amusé ». Bon, c'est un détail.
C'est important.
Les italiques, c'est vrai que le... Ah, c'est ce qui... C'est vraiment ce qui me pose... Parce qu'effectivement, j'utilise une valeur d'ironie, je donne une valeur d'ironie aux italiques. En même temps, j'essaye quand même de suivre plus ou moins l'usage. L'usage qui veut qu'on utilise les italiques pour les phrases tirées de langues étrangères et différentes choses. Donc ça me pose beaucoup de problèmes au moment de la correction, mais je continue avec les italiques parce que je trouve que c'est bien.
Ah oui, moi je suis heureux que vous continuiez.
Oui, c'est un problème que s'est posé, je l'ai découvert récemment, Jean-Louis Curtis, dès son premier roman en fait. Comment mettre cette distance ?
Alors, c'est l'émission entière disponible sur YouTube, puisqu'elle n'est plus sur le site de France Culture. Donc, Réplique, La carte et le territoire de Finkielkraut avec Michel Houellebecq. On enjoint nos auditeurs à aller écouter l'entièreté de l'émission.
Oui.
Alors, il nous reste une minute, Yvan Joseph. Qu'est-ce que vous voulez dire faire pendant une minute ?
Alors, déjà, vous remercier de m'avoir vous voyé, parce que j'adore en fait.
Mais justement, à la fin, c'était dit on arrive à la fin, on vous voit. C'est reparti.
Super. Et c'est quand même. Faire ce que j'ai pas fait jusque-là, c'est laisser vraiment toute sa place à l'autre, et notamment aux poseurs et aux poseuses, là en l'occurrence une poseuse. Toutes ces rencontres, c'est aussi tout ce que m'ont appris les gens, ce qu'ils déposent, ce qu'ils me révèlent, ce qu'ils me font connaître. Là, il y a une poseuse qui était de passage sur Paris et qui est repartie au Brésil et qui, quelques temps après, m'a envoyé un morceau de musique que je connaissais pas. Voilà, je me suis dit typiquement aujourd'hui, voilà, c'est un morceau de musique que j'aurais pas connu sans ça, sans aller vers l'autre, sans oser lui dire ce que j'avais envie de lui dire, sans trop forcément savoir ce que j'avais envie de dire. Et bah, déjà, ça m'a permis de savoir une chose, c'est que j'avais envie d'apprendre de l'autre, puisque j'étais heureux de recevoir ce morceau qui me plaît beaucoup. Alors la moindre des choses, c'est de passer le relais, de transmettre. Voilà, peut-être cette idée de transmission, du faire avec l'autre.
Donc ce morceau, c'est Douaou de Madi Kouyaté. Mmh. Et bah, justement, on va se quitter là-dessus. Voilà. Un jour, merci, je te remercie, je ne sais pas, Yvan, d'être venu dans cette émission.
Aussi.
Je vous tue.
Beaucoup.
Et puis merci beaucoup à Julien qui est aux manettes de l'émission derrière cette vitre, mais qui était avec nous quand même ce tout au long de cette émission. Et puis bah, nous, on vous dit à l'année prochaine. C'est terminé pour cette année des Habillés-moi. Bonnes vacances à vous tous et on vous retrouve dans quelques